Le Centre FLEG inaugure une exposition sur le thème super-héros, mémoire et identité juive. Au-delà des nombreux panneaux explicatifs et des illustrations, a lieu à 20h une conférence d'un des spécialistes des super-héros sur le thème super-héros et mémoire. Il s'appelle Xavier Fournier et on est en ligne avec lui. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Les super-héros se sont beaucoup impliqués sur les questions de mémoire de façon générale, notamment sur les questions de guerre, de société américaine, etc.
Eh bien, ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, je pourrais vous répondre non. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, c'est pas du tout une question de mémoire. C'est plus une question de relater l'actualité en temps réel, quoi. Et les auteurs qui ont fait ces ouvrages au début se projetaient pas vers l'avenir en pensant qu'ils seraient relus 10, 20, 50 ans, 80 ans plus tard. Mais c'est vraiment comme mettre le doigt sur une capsule chronologique. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des témoignages d'époque qui sont vraiment très intéressant parce qu'ils n'ont pas de filtre en fait.
Vous faites allusion là en l'occurrence à la première période des super-héros créés au milieu des années 30, disons-le, et qui prennent leur essor notamment pendant la guerre. Et ces super-héros, on parle de Superman, on parle de Captain America, on parle de bien d'autres, vivent la guerre ou font vivre la guerre à leurs lecteurs aux États-Unis, alors que la guerre se passe en Europe et que les États-Unis ne sont pas obligatoirement encore en guerre pour la Seconde Guerre mondiale, ils leur font vivre finalement des moments, des événements réels.
Oui, parce que pour faire un petit distinguo, en fait, il y avait deux pôles de la bande dessinée américaine. On avait les daily strips, tout ce qui est Prince Vaillant, Flash Gordon, qui était publié dans la presse, et ça, les auteurs qui publiaient ces bandes dessinées étaient assez en vue, assez considérés, avaient des budgets conséquents. Par contre, ce qui était les premiers comic books, c'était très mal vu, c'était pratiquement un boulot de dépannage comme un tireur de chaussures ou quelque chose comme ça. Et les jeunes qui créaient ces histoires n'avaient pas les moyens de s'acheter la moindre documentation. Donc la chose la plus facile à faire, c'était de prendre le journal et regarder ce qui se passait et inventer à partir de ça une aventure de Captain America ou de Superman. Et quand on reprend les épisodes de l'époque et qu'on fait un petit rétro-planning d'à peu près 2 mois et demi, 3 mois, en général on tombe sur un événement de qui se passe en Europe et qui correspond exactement à la mission. Vous dites que ça concerne surtout les premiers. C'est plus visible sur les premiers, mais ça a créé des habitudes, je dirais presque de presse, c'est-à-dire que de réactivité qui sont perdurées pratiquement, je dirais jusque dans les années 80. C'est-à-dire que les auteurs ont compris qu'ils étaient finalement lus pour la postérité à partir des années 80, quand on a commencé à regarder les rééditions et qu'on a commencé à vraiment à relire des choses qui étaient très anciennes. Et donc les scénaristes à ce moment-là se sont dit « bon ben voilà quoi, dans 20-30 ans on continuera de me relire, donc faisons attention à ce que j'écris ».
Cette conférence rentre dans le cadre d'une exposition un peu plus large autour des rapports étroits qu'il y a entre super-héros et identité juive. On a remarqué que les créateurs des premiers super-héros, de la première et même de la deuxième génération, étaient juifs. Comment expliquer ça ?
Je pense que la réponse est pratiquement dans ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que comme c'était pas un travail très en vue, c'était pratiquement un travail de ghetto d'être auteur de comics et par conséquent ça a été surtout des populations débarquées de l'immigration de l'époque et qui ont pris ce boulot là où il y en avait, et donc on trouve principalement effectivement des auteurs juifs, un peu d'auteurs italiens, et puis vraiment je crois qu'il y a un scénariste en particulier qui lui était pas né ne provenait pas d'une immigration directe, puisque fatalement la plupart des Américains sont des immigrants, mais il y avait vraiment ce rapport là qui était, je vous le disais tout à l'heure, c'était pas une exagération, on était scénariste ou dessinateur de comics à l'époque, tout comme on pouvait être cireur de chaussures, et la plupart des premiers auteurs de comics sont des jeunes adolescents. Il y a un auteur qui s'appelle Doc Hubert, qui a commencé comme petit peintre dans un atelier, il avait 11 ans.
Et puis, mais qu'il n'y ait pas de méprise quand même, c'est-à-dire que, au fond, l'identité juive d'un grand nombre même de créateurs de comics intervient pas, en tout cas directement, ni dans les scénarios, ni dans la personnalité de leur personnage. Superman n'est pas juif, ou Captain America non plus, et s'il botte le cul en couverture d'un des premiers comics à Adolf Hitler, c'est plus par patriotisme que lié au sort des Juifs pendant la Shoah.
Eh ben, l'un n'empêche pas l'autre, parce que si vous prenez l'origine de Superman, qui est assez connue, avec ses parents qui le mettent dans une fusée pour l'envoyer sur Terre, et que vous regardez un petit peu, on retrouve quand même des archétypes, c'est-à-dire que dans l'origine de Superman, il y a quelque chose de Moïse. Le nom de kryptonien de Superman, Kal-El, il intègre aussi des choses que les jeunes auteurs se souvenaient vaguement de leur culture familiale. Il y a des choses comme ça. Et honnêtement, quand vous dites que il s'agit effectivement d'être patriote avec Captain America, c'est le cas. Mais Jack Kirby, qui était le dessinateur, donnait rendez-vous. Il y avait à l'époque aux États-Unis un parti américain qui était l'équivalent du parti nazi, qui avait encore pignon sur rue avant la Seconde Guerre mondiale. Et les gens, quand ils ont vu débarquer ce Captain America tapant sur Hitler, ont envoyé des menaces aux auteurs, et Jack Kirby leur donnait rendez-vous en bas de l'immeuble en disant si vous voulez, on y va, quoi, on se castagne. Donc c'était vraiment. C'était pas affiché sur la couverture, c'était pas marqué, mais il y avait quand même une volonté derrière.
Et puis un peu plus tardivement, disons sur la deuxième génération, Stan Lee et autres, on a un certain nombre, en revanche, de personnages qui sont explicitement juifs. On pourrait en citer plein, mais je pense notamment à Magneto dans la série X-Men.
Alors, ça c'est une réinvention, c'est-à-dire que Stan Lee et Jack Kirby, qui avaient auparavant avec créé Captain America, ont créé effectivement une sorte de parabole sur les communautés, sur les choses comme ça, avec les X-Men. Mais dans les premiers épisodes, dans leurs épisodes en tout cas, Magneto n'est pas du tout lié à ce truc-là. Et d'ailleurs, il y a une ou deux cases où il fait allusion plutôt à une sorte d'admiration pour Hitler. Et c'est un auteur qui s'appelle Chris Claremont dans les années 80 qui a vraiment réinventé le personnage en lui donnant une origine qu'on ne connaissait pas. Et c'est lui qui, à un moment, a dit « Bon, bah, ce personnage, il a été dans les camps, il a un rapport comme ça avec la possibilité d'une extermination massive. » Et c'est lui qui a vraiment donné cette profondeur au personnage qui, au début, dans les années 60, était plutôt... on le compare parfois à Malcolm X, mais en vérité, dans les premiers comics, c'est vraiment un vilain d'opérette.
Super-héros et mémoire, c'est la conférence que vous donnez ce soir au Centre de Montfleg, 4 Impasse Dragon. À 20h, on aura plaisir à vous retrouver à ce moment-là et pour continuer cette conversation passionnante. Merci Xavier Fournier.
Et bien, à ce soir.